You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les grands titres de l'actualité de ce mardi 2 juillet. Le Parlement australien fait sa rentrée aujourd'hui avec au programme le plan de réduction d'impôts défendu par la coalition. C'était l'une de ses promesses de campagne avant l'élection du 18 mai dernier. Des manifestations géantes à Hong Kong à l'occasion du 22e anniversaire de la rétrocession du territoire à la Chine. Et au Niger, des militaires ont été pris pour cible par un commando dans une garnison se trouvant à la frontière avec le Mali. La capitale Niamey doit accueillir à la fin de la semaine une cinquantaine de chefs d'État à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Le Parlement australien a repris le travail ce matin avec un gros dossier pour lancer cette session parlementaire puisque la coalition souhaite adopter rapidement son plan de baisse d'impôts. C'était une promesse annoncée pendant la campagne qui a précédé l'élection fédérale du 18 mai et qui porte sur la réduction sur des réductions d'impôts d'un montant total de 158 milliards de dollars. Mais pour l'instant, l'opposition travailliste refuse de soutenir ce plan dans sa totalité. Leur leader, Anthony Albanese, a déclaré en conférence de presse qu'il n'était intéressé que par les baisses d'impôts qui seraient mises en place le plus rapidement possible. On l'écoute.
What we're going to do is to fight for making this package better for the economy and also fairer. We're prepared to facilitate debate. We're doing that tonight because we understand that the economy needs a stimulus, and that's why we want stage one of the tax cuts passed immediately and stage two brought forward as well.
Les réserves des travaillistes n'effraient pas outre mesure le ministre des Finances, Josh Frydenberg, qui prévoit malgré tout l'adoption de ce package fiscal d'ici à la fin de la semaine. Il regrette en revanche sur Sky News qu'Anthony Albanese n'ait pas tiré les leçons de la défaite électorale du Labour au mois de mai.
The tax cuts are really important to the economy. They were set out very clearly in the budget. They were central to the election campaign. The Reserve Bank governor has said they will put money in people's pockets, boost disposable income, and that will help the overall health of the economy.
Et puis, en dehors des travaillistes, la coalition cherche également à obtenir le soutien de 4 des 6 crossbenchers, ces élus indépendants qui siègent à la Chambre des représentants. Pour l'instant, seul l'ancien du Parti libéral, Cory Bernardi, a annoncé son soutien. L'élue tasmanienne Jackie Lambie ne s'est-elle pour l'instant pas encore prononcée. Quant aux 2 élus du Centre Alliance Party, ils ont fait savoir qu'ils pourraient soutenir cette réforme fiscale à condition d'obtenir satisfaction lors des négociations qui sont en train de se dérouler. En revanche, la coalition ne pourra pas compter sur le vote de Pauline Hanson et de son parti One Nation. Elle a expliqué sur Nine Networks les raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision.
I know Australians want a tax cut. I know I hear it every day. But I think what's more important is that we actually look at lowering the price of electricity by giving more reliable, dispatchable power in Australia by coal-fired power stations. Or let's start the debate about nuclear. These tax cuts are only going to, you know, help those people who are working, not the pensions or those people on welfare.
Et on a pour l'instant toujours pas de nouvelles d'Alex Higley, cet Australien de 29 ans qui étudiait et travaillait à Pyongyang, en Corée du Nord, et dont on est sans nouvelles depuis le 25 juin dernier. Le Premier ministre Scott Morrison, qui s'était entretenu ces derniers jours avec des membres de sa famille, a indiqué effectivement qu'aucune nouvelle information n'avait émergé en ce début de semaine. Il reste néanmoins, le Premier ministre, très optimiste et persuadé que le cas d'Alex Higley connaîtra une issue positive.
I must say my prayers this morning are for Alex Higley and his family, and this is a very troubling and concerning situation, and we will be continuing to use every effort that we have to locate him and hopefully be able to bring him home safely.
À Sydney, un homme a été attaqué ce matin par un requin alors qu'il nageait le long d'une plage au nord de la ville. Le nageur en question, âgé d'une quarantaine d'années, a été mordu à l'abdomen et à la jambe, mais il devrait toutefois s'en sortir d'après les services d'urgence qui l'ont emmené à l'hôpital. Et la plage où s'est déroulée l'attaque, qui est en l'occurrence la célèbre plage de Manly au nord de Sydney, a été fermée pour la journée, tandis que les sauveteurs qui travaillent habituellement sur cette plage sont en train d'effectuer une surveillance aérienne à l'aide d'un drone. Et puis à Canberra, le gouvernement australien a également fait part de sa grande déception vis-à-vis du Japon qui vient tout juste de relancer la pêche commerciale à la baleine après 31 années d'interruption. Marie Spain, la ministre des Affaires étrangères, et Susan Lee, ministre de l'Environnement, ont toutes deux formellement condamné la reprise de cette activité, reprise qui elle-même fait suite au retrait dimanche du Japon de la Commission baleinière internationale. Direction maintenant Hong Kong, où se sont déroulées hier des manifestations violentes à l'occasion de l'anniversaire de la rétrocession de l'ancien territoire britannique à la Chine. Les manifestants qui défilent en très grand nombre dans les rues de Hong Kong depuis le 16 juin dernier sont toujours opposés à ce projet de loi qui faciliterait l'extradition des ressortissants hongkongais vers la Chine. Hier, au cours des manifestations, ils sont parvenus à forcer l'entrée du Parlement.
Les coups ont finalement eu raison des vitres blindées du Parlement, entraînant la liesse de la foule. Après des heures à s'acharner sur l'enceinte officielle, les manifestants ont enfin pénétré à l'intérieur du Legco en début de soirée. Un geste fort et symbolique pour la jeunesse hongkongaise qui cherche à tout prix à se faire entendre.
Nous devons nous en prendre à ces institutions politiques pour faire passer nos demandes de changement au gouvernement et leur mettre la pression. Nous avons déjà sacrifié 3 jeunes Hongkongais, donc nous ne pouvons plus attendre. C'est un pas de plus, mais si le gouvernement ne nous répond pas, nous n'en resterons pas là.
À l'intérieur, le chaos règne tandis que les manifestants s'organisent pour tenter d'ériger des barricades. Le matériel informatique, les meubles, rien n'échappe à la colère des étudiants. Cette prise du Parlement est un réel tour de force.
C'est la dernière chose que l'on avait envie de faire. On a pu le voir avec la manifestation du 16 juin où nous avons démontré ce que nous voulions. Mais le gouvernement n'en a rien à faire, donc nous devons faire quelque chose pour la société et la jeunesse. Personne ne veut de la violence, mais c'est l'un des seuls moyens pour nous d'obtenir une réponse.
Zifan Niu, Hong Kong, RFI.
Et c'était donc effectivement un reportage de Zifan Niu pour RFI aux côtés des manifestants. Du côté du pouvoir, Carrie Lam, qui est la dirigeante de Hong Kong, a vu ces dernières semaines sa popularité chuter très bas. Elle a, suite aux manifestations qui se sont déroulées hier, fermement condamné les violences. Elle a également laissé entendre que le fameux projet de loi qui a créé l'étincelle de ce mouvement n'était a priori pas prêt de voir le jour.
By suspending the bill at this point in time with no timetable and no plan to resume the debate of the bill in the Legislative Council, the bill will expire or the bill will die in July 2020 when the current legislative term expires. That is a very positive response to the demands that we have heard.
Et on quitte l'Asie pour prendre la direction de l'Afrique et plus particulièrement du Niger où l'armée a essuyé une attaque violente sur un camp qui se trouve à proximité de la frontière avec le Mali. Le bilan, s'il n'est pas encore précisément établi, est annoncé comme lourd. Des djihadistes seraient à l'origine de cette attaque selon les sources officielles. On fait le point à Niamey avec le correspondant de RFI, Moussa Kaka.
C'est le poste militaire de reconnaissance d'Inatès sur la frontière malienne qui a été attaqué dans l'après-midi d'hier. Une opération des assaillants non identifiés combinée de voitures et de motos, un mode opératoire des terroristes, dit-on, lorsqu'il s'agit d'attaquer une position militaire. Une attaque d'envergure avec 2 véhicules kamikazes qui ont explosé à l'entrée du camp suivi de tirs nourris d'autres djihadistes à moto qui ont encerclé la position militaire. Selon plusieurs sources sécuritaires, des combats acharnés se sont déroulés. En l'absence d'un bilan officiel des combats, on parle d'un bilan lourd dans les deux camps. Les violentes explosions des 2 véhicules kamikazes ont également provoqué un incendie à l'intérieur de la caserne. Dès les premières alertes et au vu du nombre important de djihadistes qui prenaient d'assaut la garnison militaire, 2 avions de reconnaissance français et américains sont arrivés sur zone. 2 Mirage français ont également décollé de leur base de Niamey et ont survolé la zone. L'opération est toujours en cours, précise une source sécuritaire. Cette garnison d'Inatès est à plus de 260 km au nord de Niamey une zone d'insécurité permanente où se concentrent des djihadistes et des narcotrafiquants de tous bords. Dans cette même zone, à l'ouest de Tongo-Tongo, à la mi-juin, une vaste opération conjointe tripartite, nigérienne, américaine et française, a permis de tuer 18 djihadistes et 5 faits prisonniers. Moussa Kaka, Niamey RFI.
Et on prend maintenant la direction de Bruxelles, où les Européens ont échoué ces derniers jours à nommer les dirigeants des institutions bruxelloises. Le sommet qui s'est ouvert dimanche a en effet été suspendu et il doit reprendre sa session ce mardi, d'ici quelques heures. La difficulté numéro un pour donc nommer les dirigeants des institutions européennes, ce sont les divisions qui existent au sein même des partis européens, en particulier au sein du parti conservateur et du groupe des populistes. On fait le point avec Pierre Benazet de RFI.
Selon le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, la nomination des dirigeants des institutions européennes est, je cite, « incroyablement compliquée à cause de la multiplication des intérêts divergents ». Il y a désormais, selon lui, trois familles politiques divisées. Il est vrai que jusqu'en 2014, la domination des conservateurs et des socialistes rendait les tractations plus simples. Mais cette fois-ci, ce n'est pas tant la troisième place des centristes libéraux qui complique la donne que les divisions des conservateurs eux-mêmes. Les membres du PPE n'ont pas apprécié qu'Angela Merkel accepte un compromis par lequel le travailliste Frans Timmermans décrochait le poste le plus convoité, celui de président de la Commission. Les premiers ministres croates et irlandais ont fait entendre leurs doutes avec vigueur. Dans le même temps, les populistes se sont alliés à certains conservateurs pour rejeter la candidature de Frans Timmermans, considéré comme un donneur de leçons. C'est le cas de la Hongrie, du conservateur Viktor Orban, même s'il est actuellement suspendu du PPE. Il s'est allié à la Pologne, au gouvernement socialiste roumain et à la Ligue en Italie. Il semble que l'impasse actuelle démontre que rechercher une parité, un équilibre politique et un équilibre géographique relève actuellement de la quadrature du cercle. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Économie maintenant, l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui s'est réunie à Vienne en Autriche, a décidé de réduire sa production globale, une décision qui marque en fait le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la Russie au détriment de l'Iran dont l'économie est déjà très impactée par les sanctions américaines. Alors on décrypte les enjeux de cette décision avec Claire Fage de RFI.
Le ministre iranien du pétrole a émis la seule note discordante à Vienne, estimant que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole avait perdu son autorité et qu'elle était au bord de l'effondrement. Une façon de dénoncer la méthode avec laquelle Russie et Arabie Saoudite avaient tout ficelé avant même la décision de l'OPEP. Dès dimanche, en marge du G20, Vladimir Poutine annonçait que l'OPEP élargie reconduirait sa baisse de production. Ce lundi, le ministre russe de l'énergie Alexander Novak précisait que la reconduction serait de 9 mois. Les ministres de l'OPEP, eux, venaient seulement d'entrer en réunion. Avec un Iran et un Venezuela très affaibli par les sanctions américaines, l'OPEP est plus que jamais menée par l'Arabie Saoudite et cette Arabie Saoudite doit chercher le soutien d'un allié extérieur, la Russie, pour contrer la tendance baissière des prix du pétrole provoquée par le boom pétrolier américain et par la guerre commerciale de Donald Trump. L'alliance russo-saoudienne a atteint au moins provisoirement son objectif ce lundi avec le rebond des cours du brut à près de 67 dollars.
En sport, énorme surprise au tournoi de tennis de Wimbledon où l'américaine Venus Williams a été battue par une joueuse âgée d'à peine 15 ans. Corrie Goff, c'est son nom, est également originaire des États-Unis, mais c'est aussi et surtout la plus jeune joueuse de l'histoire à participer au célèbre tournoi du Grand Chelem britannique. Dans quelques minutes, mon collègue Jean-Noël Ducasse vous donnera tous les détails sur Wimbledon et il vous donnera en particulier des nouvelles de l'Australienne Ash Barty, la nouvelle numéro 1 mondiale au classement ATP, dans son magazine des sports. On fait maintenant un point rapide sur la météo de ce mardi en Australie. Il y a des nuages à Perth où il fait 19 degrés, 16 degrés à Adélaïde. Il fait également 16 degrés à Melbourne où il y a aussi des risques d'averses. Le temps est également humide à Hobart avec 14 degrés. 14 degrés également à Canberra où il y a en revanche du soleil. Soleil aussi à Wollongong avec 18 degrés, 19 degrés à Sydney et 20 degrés à Newcastle. Il fait 24 degrés à Brisbane mais le ciel est nuageux. 26 degrés à Cairns et le soleil brille sur Darwin où il fait 31 degrés.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.